Charles Filarette, La Conciergerie, épisode d'une vie obscure. J'avais 16 ans lorsque je vis pour la première fois la Conciergerie. Quelle prison c'était alors! Une prison de l'Ancien Régime, belle d'horreur, hideuse de poésie. Un amas de cachots, un dédale de corridors sombres et de voûtes infernales. Du front, vous touchiez la poutre qui écrasait le guichet d'entrée, ployé en deux, vous aviez à peine à leur franchir. Un réverbère à la clarté rouge brûlait éternellement sous le porche. Là, il y avait encore des faces noires de geôliers, des paquets de clés retentissantes, des barreaux de fer obstruant l'air et la lumière. Je m'en souviendrai toujours. De telles images ne périssent point dans la mémoire. Elles projettent leur ombre sur toute une vie. Elles forment un homme ou l'écrasent, font germer son intelligence ou la tuent. Les plus tendres, les plus amères de mes pensées se reportent vers ces voûtes obscures. 1815 et la Conciergerie. Deux traces profondes ne s'étaient point effacées en 1831, sous des chagrins qu'il n'est pas nécessaire de rappeler ou de décrire, sous l'expérience cruelle d'une vie sans protecteur et sans lien, sous des regrets et des désappointements que nous croyons notre apanage et qui sont le lot de tous, sous le poids de 15 autres années solitaires, agitées ou douloureuses. Je voulus encore visiter ce château où j'avais passé 2 mois. C'était un besoin d'âme, un retour vers des temps écoulés, vers des biens perdus, vers ceux qui vivaient en 1815 et auxquels je survivais seul. Dieu sait en 15 années que de tombes surgissent autour de l'homme. La grille où ma mère avait pleuré devait me parler d'elle. Cette obscurité, confidente de mes timides et profondes tendresses, allait rouvrir dans mon cœur une source d'émotion que le monde glace sans la tarir. Je me trompais. Le temps qui change les hommes bouleverse les pierres. La prison de 1815 avait disparu. Je vis la nouvelle Conciergerie de 1831 et ne retrouvais plus ma geôle. Ce fut une douleur pour moi. Où étiez-vous, Conciergerie noire et lugubre, témoin impassible de toute la Révolution? Escalier tortueux, couloir suintant d'une humidité de sépulcre. Et voici une prison qui ressemble à un hospice bien tenu. Cette poésie funèbre s'est évanouie. Tout s'est civilisé. Le changement social, qui met aujourd'hui de niveau la roture et la noblesse, la boutique et le salon, est venu donner un aspect identique à la maison du châtiment et à la retraite du malheureux qui recueille la charité publique. La santé des hommes respectés, leur repos et leur sommeil protégés, leur vie même criminelle soigneusement conservée, attestent le progrès éternel des sociétés qui se perfectionnent en paraissant se suicider. J'avouais l'amélioration, mais combien j'eusse voulu me retrouver quelques heures seulement dans cette cave où 1875 m'avait jeté, pauvre enfant, accusé sans preuve, criminel d'État en suspicion, chétive victime de ces précautions politiques qui ont à tort et à travers frappé des têtes glorieuses et obscures, sans parvenir à leur but, sans soutenir les républiques ruineuses ou les trônes tombants. Oui, je suis fâché d'être obligé de parler de moi. Dès que vous entrez dans cette route égoïste, votre personnalité vous saisit et vous domine. Elle vous entraîne malgré vous. Comment expliquer ce que vous avez à dire, le présenter sous son vrai jour, l'offrir dans sa réalité, sans se livrer à cet insupportable détail de circonstances toutes individuelles? Le moi devient votre tyran, il vous presse en dépit de vous-même, il vous enivre de sa nécessité et vous accable de son poids. Au surplus, rien d'héroïque ne se mêle, j'en préviens d'avance, aux événements que je vais raconter. S'il est question de moi, ce n'est point ma faute. Je roulais, ballotté par la tourmente politique, comme le bras de paille qu'emporte l'ouragan. Il s'empara de ma vie et fut sur le point de la briser. Mais je ne le provoquais pas. Si je le bravais, ce fut d'enfantillage, romanesque, plutôt que force et courage. Que l'on se garde d'imputer un vain amour-propre, un besoin puéril de me mettre en scène, les souvenirs que je vais tracer. Je placerai sous les yeux du lecteur la conciergerie de 1815, en contraste avec celle de 1831. Deux prisons séparées par 15 années, deux points de comparaison curieux entre deux époques si rapprochées et si diverses. Que l'on cherche là, et non dans une sotte personnalité, le véritable intérêt de ce récit. Au mois d'avril et de mai 1815, il y eut plusieurs conspirations dans Paris. Mal trémées, mal tissues, préparées par des insensés, aidées par les hommes qui devaient les punir, car c'est là le dernier raffinement de la politique. Je ne me doutais point que mon nom figurerait dans ces listes. Mon père, mutilé et en retraite, vivait avec sa famille dans une solitude profonde à l'extrémité de Paris. Là, le fracas des guerres, des triomphes, des défaites des monarchies réformées, abattues, relevées, nous arrivait comme le tumulte d'une grande ville en proie aux flammes, bruit au loin et réveille l'ermite dans son rocher. J'étais, je l'avouerai, beaucoup plus occupé de l'Allemagne par Madame de Staël, livre qui venait de paraître, que de toutes les conspirations de l'Europe. Mes études étaient terminées. Mon père, jugeant bien l'état du monde civilisé, surtout celui de la France, n'y vit que fortune croulante, position incertaine, avenir menaçant, nuages et foudres, couronnes aussi chancelantes que la hutte du paysan sur les haltes quand souffle l'orage. Je ne voulais pas le croire. La sagacité de sa vieillesse était prophétique. Il pensa, comme Rousseau, que la seule ressource d'un homme était en lui-même, que la plus intellectuelle éducation pourrait ne servir à rien, que dans cette époque de crise et de bouleversement universel, chacun, même le plus riche, devait savoir gagner son pain à la sueur de son front. C'était une vue bien juste de la société. Je la trouvais exagérée. Je me trompais. Contemplez le monde d'aujourd'hui, vous me direz s'il avait tort. Ce tremblement universel, cette terre vacillante sous nos pieds, nos terreurs, nos agitations, le justifie. Il me proposa donc de couronner une éducation toute scientifique, commencée de le plus bas âge, et embrassée avec ardeur par l'apprentissage d'un métier manuel. Qu'on imagine la peine éprouvée par la vanité d'un enfant qui sort de ses classes, qui a été couronné pour des versions grecques et des déclamations rhétoriques, qui fit rire Rousseau, qui se croit un penseur, qui aspire par tous les pores cette éducation fébrile de nos romans, de philosophie et de notre philosophe romanesque. Ouvrier, quel titre et quelle chute, quelle résignation! Une obéissance filiale et toute passive courba ma volonté sous ce bon sens paternel qui, dans la situation où se trouvait notre famille, eût pu passer pour extravagance et n'était que l'excès de la raison. Je me crus héroïque en acceptant sans murmurer, mais tristement, la meilleure des garanties qu'un homme puisse mettre en réserve contre les chocs de la vie et de la fortune. En devenant d'écolier qui savait faire un thème inutile, un utile compositeur d'imprimerie. Il y avait alors à Paris une imprimerie unique dans son espèce. Trois casses développées se trouvaient reléguées solitaires dans le deuxième étage d'une maison obscure, située rue Dauphine, sur le terrain occupé aujourd'hui par le passage qui porte ce nom. Point d'ouvriers pour donner le mouvement à ces morceaux de plomb créateurs, pour les transformer en pensées. Le maître était pauvre. Comment vivait-il? Je l'ignore. Il n'imprimait pas même d'almanach. Il existait cependant, et ses presses oisives et ses casses poudreuses chargeaient inutilement le plafond de son propriétaire. Je crois que la police tenait cette maison sous sa surveillance immédiate. Ce que mon père ignorait. Il ne vit dans la solitude de l'atelier qu'un moyen précieux de protéger ma jeunesse contre la contagion de l'exemple. Sans vivre au milieu des ouvriers, j'allais le devenir et m'instruire sans danger. Mon père choisit donc pour mon maître le pauvre propriétaire d'une imprimerie délabrée. Et pendant 3 mois, je me rendis régulièrement, depuis 8 heures jusqu'à 3, dans l'atelier désert. Là, je restais seul. Je rêvais. Et souvent, l'ennui venait me poursuivre. Les leçons du maître étaient rares, et quand le maniement des lettres et leur pose dans l'instrument qui les unit avaient fatigué mes doigts, je m'asseyais avec un livre. Qui n'a pas connu le dégoût du travail matériel ne comprendra jamais tous les délices de la lecture. Vous avez eu affaire à l'élément grossier, au plomb, à la terre, au bois, forces aveugles qui n'opposent qu'une résistance passive et ne donnent qu'un résultat machinal que l'intelligence peut modeler sans l'animer jamais. Et voici la pensée, cette pensée toute resplendissante, active, immense, pénétrante, insaisissable, indomptable, infrangible, féconde d'une fécondité qui ne meurt pas. Je ne m'étonne point que de grands hommes soient nés du sein des métiers mécaniques. Pour ceux qui ont été nourris exclusivement dans les salons, l'intelligence est un jeu, une parure, un délassement. Mais pour ceux qui ont poussé la charrue ou agité la lime, l'intelligence devient une passion, une force, une beauté, un culte, un amour divin. C'est de l'échoppe, de la boutique, de l'atelier ou du greffe de notaire, magasin d'écriture sans pensée, que la plupart des puissants esprits ont jailli. Molière au milieu de la boutique du tapissier, Burns chez le métayer, Shakespeare, fils d'un marchand de gants, autrefois boucher, Rousseau, fabriquant les rouages de son père. Longtemps aux prises avec la nature physique, tous se sont réfugiés, heureux et enthousiastes, dans le domaine libre de la pensée. Un esprit même inférieur se tremperait fortement dans ses apprentissages mécaniques, et si jamais l'immense réforme qui s'empare du monde s'étend jusqu'à l'art de créer des hommes, je ne doute pas que le bon sens public ne l'emporte enfin, et que l'une des parties les plus importantes de chaque éducation ne soit désormais le choix d'un apprentissage, même pour les puissants et les riches, l'étude sérieuse de la nature physique et l'essai d'un métier. De toutes ces idées, pas une ne se présentait à mon esprit. Je sortais de classe. J'avais ma tragédie à composer, de tendres rêves à suivre, et Gessner que je voulais lire. J'accomplissais soigneusement ma tâche. Mais avec quel plaisir venais-je à ces fades pastorales de Salomon Gessner, dont la blafarde moralité me paraissait le dernier terme du bon goût et de l'élégance. Ô bergère des idylles, Chloé, Daphné, Leucothoé, que vous sembliez belle dans cette salle noire et triste, vide d'habitants et peuplée d'araignées à petites fenêtres, à petits carreaux d'or, d'où j'entendais que le bruit descendant de l'orgue, aux basses semblantes et au-dessus criards, le frôlement lointain des voitures, les cris d'un épileptique qui recommençait chaque jour dans une chambre voisine, sa hideuse agonie, enfin les murmures émanés d'une salle de jeu située dans la partie inférieure de la maison. Cette salle de jeu m'occupait beaucoup. Là, je voyais entrer de vieilles femmes avec un ridicule vert à 3 heures du soir, et je les voyais en sortir le lendemain à 10 heures du matin. Elles y avaient passé la nuit. Un coup de pistolet s'y fit entendre certains jours sur le midi. J'aperçois encore la chambre au tapis vert dans l'intérieur de laquelle mon regard curieux essayait de pénétrer à travers les rideaux rouges qui cachaient cette caverne. Un samedi soir, après avoir commencé de traduire en beaux hexamètres à rimes plates le roman de Daphnis, je laissais sur la casse ce livre auquel j'ai dû tant de bonheur et que tout le charme du souvenir ne me permettrait même pas de parcourir aujourd'hui. Le lendemain, mon père devait me mener à la campagne à 5 lieues de Paris. Le premier jet du printemps, le premier sourire du ciel, le premier souffle de l'air embaumé m'attendaient. Je ne voulais point partir sans Gessler, et à 7 heures du matin, j'étais à l'imprimerie. Un autre motif se joignait à mon amour pour Gessler. La femme du maître était pauvre et malade. Son fils était en proie à la plus affreuse des infirmités naturelles, l'épilepsie. Son mari à la plus douloureuse des infirmités sociales, la misère. L'intérieur de cette maison était déplorable. Il fallait toute l'insouciance et toute l'illusion de 15 ans pour y porter des idylles et mêler à ce que la détresse, la civilisation, la maladie, les révolutions ont de plus douloureux résultats. Les fictions d'une mythologie de boudoir. J'avais quelques secours à donner à la femme malade de la part de ma mère. C'était, je crois, des œufs frais, provisions bien cachées dans un panier, et qui devaient, jointes aux églogues, m'ouvrir les portes du cachot. Tout ce détail puéril était nécessaire pour expliquer par quel enchaînement de petites circonstances je tombais, en dépit de ma jeunesse et de mon insignifiance, sous les voûtes de la conciergerie. Quand j'arrivais, deux hommes stationnés au pied de l'escalier obscur, qui conduisaient en décrivant une spirale étroite jusqu'au logis du maître, m'examinèrent curieusement. Je ne fis aucune attention à ces sentinelles en habit râpé, et après avoir déposé ma provision sur la table d'une petite antichambre, je montai dans l'atelier. Je redescendais mon livre à la main quand j'aperçus, à travers la porte ouverte, un homme dont une écharpe blanche ornait la poitrine et qui s'appuyait sur une cheminée d'un air indolent et plein d'ennui. J'entrai dans le logement du maître imprimeur. Je voulais savoir comment se portait la pauvre femme. J'ignorais toutes les choses de la vie. Plus tard, cette écharpe m'eut appris à qui j'allais avoir affaire. À peine eus-je pénétré dans la chambre, deux hommes qui s'y trouvaient me saisirent ou me fouilla. Je ne dirai pas avec quelle indécente exactitude ces recherches furent exécutées. J'étais muet et glacé d'étonnement. L'œil fixe et perçant de l'adjudant de police s'arrêtait sur moi. Un portefeuille dans lequel se trouvait le plan de ma tragédie et l'espérance de mon immortalité fut soigneusement empaqueté, cacheté, étiqueté. On me demanda mon nom, mon âge, mes qualités. On écrivit ce curieux détail et sans daigner me dire ni ce qu'on voulait faire de moi, ni ce qu'on voulait apprendre de moi, l'on m'ordonna de suivre deux de ces honorables messieurs, vêtus de noir, cravatés de noir, sans col de chemise et armés d'un bâton. Ils me conduisirent à la police. Les gentilshommes qui m'escortaient étaient polis comme des huissiers de comédie. À cette aménité du chat et du tigre, qui distingue par presque toutes ces professions habituées à vivre de la souffrance humaine, se joignaient, je pense, quelques commisérations pour mon âge et pour la naïveté de mes questions. Pendant que nous traversions le Pont Neuf, ils essayaient de me rassurer et de me consoler. Les femmes, dont l'instinct devine toutes les peines, me regardaient avec pitié. À mes interpellations, ils répondaient que ce n'était là qu'une chose de forme, que je serais bientôt rendu à ma famille, que le hasard qui m'avait conduit chez l'imprimeur, accusé d'un délit politique, n'était pas un motif suffisant de suspicion, encore moins de détention. Enfin, il me laissait croire que je reverrai le soir ma pauvre mère, et j'entrai sans crainte dans le bâtiment qu'on nomme la police. Cette grande et belle magistrature, l'édilité de Paris, on n'a rien oublié pour la vilir. Au lieu de lui consacrer un palais digne d'elle, on l'a enfoncé dans un égout. Je ne doute pas que la civilisation ne corrige à la fin cette faute stupide et ne rende à des fonctions protectrices et bienfaisantes leur honneur effacé, leur véritable destination. Pour le dire en passant, le choix du nouveau préfet, M. Saulnier, homme doué d'une intelligence nette et haute, et des vues les plus fécondes et les plus saines, en économie politique, semble devoir amener de grands changements dans cette détestable organisation. J'entrevis les bureaux, montai quelques escaliers, mes acolytes me quittèrent, on me poussa par les épaules, je me trouvai dans une salle oblongue dont l'odeur me suffoqua. J'étais habitué à une vie simple et élégante. Je jetai les yeux autour de moi. Des hommes demi-nus, des haillons couvrant les femmes au teint rouge et à l'œil lubrique, de ces gens que vous rencontrez à Paris et qui sentent l'estaminet, le mauvais lieu, des paysans en blouse, les bras croisés, étendus par terre, des fumeurs jouant au piquet sur le carreau avec des cartes grasses, une atmosphère épaisse, infecte, dont un cabinet secret, faisant partie de la salle même, augmentait encore la révoltante saveur, un lit de camp, sur lequel fourmillaient côte à côte la misère, la crapule, le vice, le malheur et le crime. Voilà cette salle, placée sous l'invocation de Saint-Martin. C'était là que cette politique cruelle, briarée et aveugle, qui écrase tout sur sa route, précipitait mon adolescence, sans pitié, sans remords, sans l'apparence d'une accusation ou d'un témoignage, et je fondis en larmes. J'allais m'asseoir dans un coin, dans l'embrasure d'une fenêtre. L'argot des voleurs ne me permettait pas de comprendre ce que l'on disait. Le rire immonde du crime, les gestes de la débauche, une férocité efféminée, caractère spécial du vice dans les grandes villes, frappaient mes yeux humides de pleurs. Ces figures raves, gaies, l'œil étincelant, le front ridé, venaient me regarder sous le nez et insultaient à ma tournure délicate et faible, à ma pensive douleur, à cette stupeur dont j'étais saisi. Un vieillard, tout tremblant, vint à moi. Il parlait à peine. Ses lèvres entr'ouvertes par la décrépitude, sa tête, dont les derniers cheveux blancs étaient tombés, sa bouche édentée et frissonnante, faisaient peine à voir. C'était un ancien avocat que l'on avait arrêté la veille et qui était accusé de conspiration. Il y avait dans sa débilité un reste de bonne manière, mais son intelligence hébétée et sa voix sans souffle et sans articulation ne me permirent pas de comprendre le discours fort long qu'il me tint. Je devinais seulement que le même motif nous rassemblait, lui sur le bord de la tombe, moi sur le seuil de la vie, dans ce lieu d'ignominie, dans ces lames de cachot. Parmi les misérables entassés dans le parallélogramme de la salle de police, et dont les 60 visages sont encore présents à mon souvenir, j'en remarquai un, le plus intéressant et le plus étrange de tous. C'était celui d'un fanatique. Vous le voyez là, jeté comme s'il se fût détaché d'un roman de Walter Scott, pour descendre dans la rue de Jérusalem et mêler sa nuance poétique à ses balayures de la société. Une figure longue et pâle, un œil inspiré, de longs cheveux noirs, bouclés naturellement, point de cravate, une parole rapide, bizarre, incohérente, le signalait à l'attention. Il prêchait à ceux qui l'entouraient et qui blasphémaient en l'écoutant, je ne sais trop quelle hérésie chrétienne, le renouvellement des sociétés. Le souvenir de son histoire s'est effacé de ma mémoire. Il faisait tache dans cette assemblée. Une empreinte de folie enthousiaste se mêlait sur son front à cet affaiblissement des traits et à cette mollesse des parties solides qui suivent ordinairement les habitudes déréglées. On l'avait ramassé dans un carrefour, prêchant au peuple. Je le sais ce qu'on aura fait de lui. La vermine couvrait le lit de camp. Je passais la nuit sur une chaise dans l'embrasure de la croisée. Le lendemain, le geôlier distribua des tranches de pain noir et une gamelle aux habitants de la salle. Je demandai la permission d'écrire à ma mère, malade, souffrante, la plus tendre des mères et qui n'avait aucune nouvelle de moi. On ne voulut pas. Quelle cruauté! De quelle haine le cœur le plus calme et l'esprit le plus sensé ne veut-il pas s'armer contre une civilisation si barbare? À la fleur de l'âge et sans avoir donné, par la plus légère imprudence, un prétexte aux atteintes du monstre qu'on nomme inquisition de police, j'étais là, confondu avec la dernière lie de la crapule et du vice. Ma jeunesse innocente, studieuse, plongée dans cet égout comme un flot pur jeté dans une fontaine infectée. Toute communication entre le monde et moi tranchée tout à coup. Point d'interrogatoire, nulle sentence, aucune forme de procès. Le dire d'un adjudant de police avait ouvert et refermé sur moi ce tombeau impur. Ma famille me cherchait, ma mère me pleurait. Oh, on eût fait de moi ce que l'on eût voulu. Nul secours contre ces hideuses volontés d'une organisation administrative dont les rouages obscurs et les leviers silencieux frappent, enlèvent, écrasent sans bruit, sans que la société soit avertie, sans que la justice ou la pitié puissent réclamer. 3 jours passés ainsi, la triste pensée de ma mère, l'inquiétude mortelle, l'impossibilité de communiquer au dehors, me donnèrent la fièvre. Le geôlier de la salle obtint pour moi la permission d'écrire. Je fis 2 lettres, l'une pour ma mère, l'autre pour le préfet de police. Elles partirent décachetées, selon la règle de ces lieux. Et le soir, un mot de ma mère et une bague que je ne quitterai jamais me parvinrent. Le lendemain, à 11 heures, mon nom retentit à la grille du quichet. J'allais être interrogé. Après 3 jours passés sans sommeil et plongé dans cet étonnement et cette douleur qu'il est facile d'imaginer, tout le système nerveux se trouvait violemment excité chez moi. Nous manquions d'eau dans cette salle des gens ramassés. Mes vêtements étaient malpropres, mon linge souillé, une fièvre ardente me brûlait. L'homme qui donnait le pain et l'eau à ces prisonniers expectants, dont je venais de faire partie, me confia à 2 gendarmes. De corridors en corridors, de détours en détours, nous parvînmes à un greffe situé dans une chambre inférieure. J'entendis un cri. Ma mère était sortie de son lit. Elle avait obtenu la permission de m'embrasser un moment. Elle était là, son étreinte fut muette. Elle me regarda et son coup d'œil me dit combien j'étais changé. Sa pâleur et ses larmes me causèrent une convulsion que je ne puis exprimer. Depuis longtemps, ma mère avait été condamnée par les médecins. Battue des orages de l'OTAN, elle avait vu mourir son premier mari sur l'échafaud. Corvisart lui avait annoncé que les émotions violentes la tueraient, et elle ne vivait que par artifice. L'indulgence de la police n'alla pas plus loin. On ordonna à ma mère de se retirer et on l'emporta. Devant un bureau, chargé de cartons soigneusement classés et numérotés, se trouvait un homme dont je n'ai point demandé le nom. C'était une figure courte et carrée, noire et ridée, grasse et osseuse. Un front bas avec de gros sourcils, un œil plissé aux côtés, de larges épaules de bourreau et une mine d'inquisiteur. Je restai debout devant cet homme, qui qui commença l'interrogatoire. Puisse-t-il, s'il croit à Dieu et s'il paraît un jour devant le grand être, ne pas trouver un juge aussi cruel ? Monsieur, me dit abruptement cet homme, vous faites partie d'une génération étouffée. Race de vipères, on ne rendra la paix à la France qu'en l'écrasant. Je fus surpris de ces paroles, et réveillant tout ce qu'il avait de calme et de raison en moi, je répondis : Mais monsieur, j'ai cru que vous aviez à m'interroger sur des faits, et je n'entends que des injures. Le petit homme, que mon vêtement délabré, ma jeunesse et ma mine chétive avaient encouragé dans son insulte, bondit sur son fauteuil de cuir noir, et se levant de toute sa petitesse, appuyant ses deux poings fermés sur le bureau, s'écria « Ah, vous voulez m'apprendre ce que j'ai à faire, vous m'en remontrez, monsieur ?» Je n'ai pas oublié une de ses paroles. « Mais je me contente de vous rappeler, monsieur, repris-je froidement, que vous avez affaire non à un coupable, ni même à un prévenu, mais à un jeune homme fort innocent, qui ne sait pas pourquoi il est ici, de quel droit on l'y a mené, sous quel prétexte on l'y retient. « Oui, c'est cela, continua l'interrogateur, qui s'était rassis. Vous faites le beau parleur. Vous appartenez, on le voit aisément, à la jeunesse libérale. Greffier, écrivez tout ce que monsieur dit. » Puis, s'échauffant dans son harnais, à mesure que le calme de mes réponses augmentait sa folle colère, et ne pouvant obtenir sur l'objet dont il cherchait la piste aucun renseignement de moi, étranger à toute conspiration, ce chasseur d'hommes qui cherchait vainement à me traquer, et que mon évidente innocence mettait en fureur, ouvrit mon portefeuille, confisqué, commenta les vers de ce pauvre Guillaume Tell et Baucher, fit valoir contre moi le premier couplet de je ne sais quelle mauvaise chanson libérale qui s'y trouvait tracée au crayon, me questionna sur mes intentions secrètes, sur mes idées et sur mes théories. Ayant soin de tirer bon parti de mes réponses et de m'inculper du moins par mes paroles, puisque les faits lui manquaient, le sot me demanda si j'aimais la dynastie régnante. Je me tus un moment et je lui dis « Oh, je ne sais, monsieur, si j'aime aucun gouvernement. Je sors de mon collège et je ne puis rien répondre à des questions de théorie ou d'affection personnelle. Ce genre d'interrogation dépasse, selon moi, les fonctions dont vous vous acquittez si bien. Quant à ces vers écrits dans mon portefeuille, ce sont des fragments de la tragédie que je dois lire au comité de l'Odéon. Ils n'ont aucun rapport avec la police. Je vous ferai justice si vous me rendez à ma famille, à laquelle on m'arrache sous un prétexte si puéril. Raisonneur, mais savez-vous que je puis, si je le veux, vous mettre à l'instant dans un cul de basse fosse ? » Je n'ajoutais rien, ni aux demandes, ni aux réponses dont se composa cette scène, déshonorante pour l'estafier supérieur, chargé de m'interroger. Il y avait de la bassesse dans cette colère. Je me suis demandé souvent pourquoi cet homme s'y livrait envers un personnage aussi complètement inoffensif que je l'étais. D'abord, il avait à découvrir l'auteur d'une prétendue proclamation de Marie-Louise. Et après 3 jours d'inutiles interrogats, il commençait à se dépiter de l'inutilité de ses recherches. Ensuite, à mon aspect, il m'avait pris pour un enfant du bas peuple. L'adjudant de police m'avait désigné comme ouvrier. Mes vêtements s'accordaient avec ces désignations. Il ne se gêna pas, me laissa debout et m'écrasa de sa petite puissance. « Oh, ces Jupiters de second ordre, dit quelque part Shakespeare, laissez-leur un moment la foudre, vous verrez comme ils en useront sans pitié. » La fierté de mes réponses et leur logique rectitude lui déplut, et la colère le prit. Quand ce paroxysme fut à son comble, il m'ordonna de signer une feuille de papier où l'on avait écrit « Non, tout ce que j'avais dit », mais la partie matérielle de mes réponses. Et sur un signe de ce monsieur, le gendarme m'emmena. Je fus placé dans une autre chambre où se trouvait un officier âgé d'environ 40 ans et qui portait la croix d'honneur. C'était un colonel accusé de conspiration. Il me regarda tristement et me tendit la main. « Ah !» me dit-il, « on vous accuse aussi de conspirer. Quel âge avez-vous, jeune homme ?»« 16 ans. C'est admirable !» Le colonel se jeta sur un lit et y resta longtemps en silence. Le soir, deux gendarmes vinrent me prendre. Ils me dirent de monter dans un fiacre où ils se placèrent à mes côtés. La voiture s'arrêta devant le palais de justice. Là voilà cette conciergerie. Près du vaste escalier dont les degrés conduisent au palais de justice, vous découvriez dans un coin à droite, enfoncé sous terre, caché par une double grille, écrasé par l'édifice qui le domine, le souterrain dont je parle. Le poids de tous ces bâtiments l'étouffe, comme l'assotier pèse sur le détenu innocent ou coupable. Est-ce une prison, un égout, une cave? Vous ne pourriez le dire, tant cette porte de la prison, si petite, si basse, si étroite, si noire, se confond avec l'ombre que projettent les saillies des constructions environnantes. À la porte se tient le gardien de l'enfer. À gauche est l'écrou. Devant vous brûle la lampe sombre qui seule éclaire d'une lueur de sang cette avenue funèbre. On a, je le répète, changé tout cela. La plus vieille des prisons de France ressemblait encore en 1815 aux oubliettes de la féodalité. J'entrais, précédé d'un gendarme et suivi d'un gendarme. Ma première pensée fut une pensée de mort et de tombeau. Mais ensuite, oh, avant le péché d'une fierté puérile, cette iniquité, si flagrante, me donna courage, et je trouvais que ces hommes, qui s'abaissaient jusqu'à craindre mon enfance et la jeter dans leur caveau, m'élevaient à une dignité précoce d'homme et de martyr. La conscience de ces idées pures et tendres au milieu desquelles l'adjudant de police m'avait surpris, la conviction de mon innocence, le dégoût que m'inspirait cette barbare sottise, peut-être le plaisir bizarre d'essayer, à une époque si peu avancée de la vie, ce que la vie a de plus poignant et de plus amer, m'exaltait étrangement. Je sentais que je serais au niveau des grandes douleurs, et que le monde n'aurait rien de trop cruel pour moi. Je lui jetai le gant du défi, il l'a relevé. On m'écroua. Oh, ce mot est ignoble, terrible. Vous diriez une action physique, une chaîne que l'on rive, un boulet dont on vous charge. Par ce contraste, contrat de la force envers la faiblesse, vous appartenez à la prison. Vous êtes la chose, le jouet, le mobilier du gardien. Vous descendez de l'état d'homme à celui d'être insensible et brut, classé, parqué, étiqueté comme le tronc d'arbre arraché à la forêt et placé à son rang dans le bûcher du maître. Le réverbère du porche ne jetait qu'une lueur douteuse et faible sur les objets. J'entrevis les haillons d'un voleur qui, assis sur le même banc que moi, attendait aussi son écrou. Puis un grand homme à veste brune me saisit par la main. Nous montâmes des escaliers, nous traversâmes des galeries. Le vent soufflait humide dans ces avenues obscures. Mes yeux, inaccoutumés à ce monde nouveau, ne couvraient rien que des étoiles rougeâtres et isolées, brûlant de distance en distance. C'étaient des lampes attachées aux parois. « Nous avons des ordres, » me dit le conducteur. « J'en suis fâché, mon jeune homme, mais vous êtes au secret. »« Qu'est-ce que le secret ?»« Bien, c'est une chambre où vous ne pourrez pas sortir et où vous ne verrez personne. » Nous avions descendu plusieurs marches. Un long corridor à soupiraux s'ouvrait devant nous. Plusieurs grilles nous livrèrent passage et retombèrent en vibrant. La troisième porte du corridor était celle de ma prison. Massif de fer armé de tous les verrous, dont le luxe est spécial dans ces lieux. Voilà, dit le geôlier, après avoir soulevé deux barres de fer et fait crier trois fois l'énorme clé dans la serrure. C'était à environ 8 pieds de long, sur 5 de large et sur 12 pieds de haut. Des ténèbres obscures. D'une part, le mur dégoûtant d'eau saumâtre, d'une autre, une cloison de bois. Le sol battu comme celui d'une cave. Au fond, à 10 pieds de terre, vis-à-vis la porte, une ouverture de 3 pieds de large sur 1 pied de hauteur, laissant apercevoir un lambeau de ciel bleu et resplendissant. Un lourd treillis de fer obstruant cette moquerie de fenêtre, et devant ce treillis, un abat-jour de bois placé à l'extérieur. Oh, que d'ingénieuses précautions! Dans un coin, à gauche, en face de la porte, quelques bottes de vieille paille jonchaient le sol. Au-dessous de la fenêtre, un baquet. Près de la porte à gauche, un autre baquet rempli d'eau et une écuelle de bois. Je tressaillis, j'avais froid, j'avais peur. C'était la prison du condamné, le cachot dans toute son horreur, que l'on me donnait à cet âge, à moi, qui n'était même pas suspect. Quoique les auteurs de mélodrames aient abusé de ce moyen, je suis tenté de croire à la commisération des geôliers. Ils voient si peu d'êtres dignes de pitié, et que le hasard leur en offre un, ces âmes habituées à la souffrance des autres et fatiguées de s'endurcir, se donnent la joie d'un peu de compassion, le rare délassement d'une charité passagère. Jacques me plaignit et me servit bien. Sa figure de bois semblait s'amollir et se détendre quand je lui parlais. Il était bon pour moi et s'arrêtait jusqu'à 5 minutes dans ma geôle. Cet homme en veste brune et à la ceinture chargée de clés était plus pitoyable que l'interrogateur, homme du monde, qui dînait en ville, portait une culotte courte de soie noire et causait avec les dames. La menace de ce monsieur s'accomplissait. Voilà basse-fosse que son amour-propre blessé m'avait promise. Je ne savais alors quelle fantasmagorie se jouait de moi, ni comment, arrêté chez un imprimeur, conduit à la police, interrogé par un sbire, transféré à la conciergerie, je subissais le traitement que Desrues et Mandrin avaient subi. Je le voyais dans cette série de cruautés qu'une féerie lugubre. Aujourd'hui, je comprends fort bien cet enchaînement de barbarie. Je le conçois pour le maudire, non par vengeance ou par ressentiment, mais comme homme, comme citoyen, comme pénétré d'une rancœur profonde, si je puis emprunter la parole énergique de nos ancêtres, contre ces insultes à l'humanité dont la police politique se permet l'emploi impuni au sein d'une société qui se dit légale et qui veut être libre. Je restai là. Un pain me fut apporté. Un pain de prison, bien noir et que ma faim n'osait même pas entamer. Tant il était lourd, amer, et d'une odeur et d'une saveur repoussantes. « Voulez-vous la pistole ?» demanda le geôlier. J'avais séché mes larmes, je me fis expliquer ce que c'était que la pistole. Eh bien, pour 100 francs par mois, on avait un lit, du pain blanc, des aliments, une table et une chaise. Je n'étais inquiet que de ma famille. Je demandais à Jacques si je pouvais communiquer avec elle. « J'enverrai quelqu'un, me dit-il, pour donner de vos nouvelles à votre mère, mais il vous est défendu d'écrire des lettres et d'en recevoir. » Je fis entendre à Jacques que mon père ne manquerait pas de payer la pistole et de reconnaître les services qu'il pourrait me rendre. Je le priais de faire dire à mes parents que ma santé était bonne et que j'étais fort paisible. Il sortit, et le soir, quand la ronde de nuit de la fermeture des portes et les soins ordinaires de la prison le ramenèrent dans ma cave, il m'apprit que ma mère était restée longtemps au parloir et l'avait chargée de me remettre quelques fruits. La douleur maternelle avait été au cœur de Jacques. Il m'apporta la pistole, une table branlante en bois blanc, une chaise dépaillée, des draps humides et une couchette grise que je vois encore sur le dos de laquelle ces mots étaient tracés au crayon. Monsieur de la Bédoyère a couché ici, le reste était effacé. Au bout de quelques jours, on m'envoya des livres. Je pus écrire à mon père, mais non cacheter mes lettres. Mon cachot s'égaya un peu. Je demandai de vieux bouquins à compulser. Mabillon, Sauval, Sainte-Foy, et tous ces écrivains qui ont recueilli, avant Monsieur Dulaure, les débris historiques de nos cités. Pas un d'entre eux n'a rempli sa tâche en poète. Et c'est pitié de voir avec quelle triste exactitude de greffier, avec quelle subtilité de casuiste, ils dissertent sur les monuments anciens, sans jamais saisir la vie réelle des peuples éteints. J'eus plaisir, cependant, à déchiffrer dans leurs froides pages quelque chose de l'antique destinée de ma conciergerie. La conciergerie, le palais, la cité, c'est le vieux centre de Lutèce, le cœur de Paris. De là se sont élancées toutes ces maisons qui ont élargi la ville, qui l'ont propagée au loin. Là étaient les amours de Julien. De ce centre ont divergé les rayons qui ont englobé les villages tout entiers dans leur progrès. Aussi, dans cette vieille prison, que de larmes ont coulé depuis l'époque où quelques bateliers occupaient l'île, autour de laquelle sont venus se grouper tant de palais. Dans ce souterrain auquel se rattache toute l'existence de la cité reine, que de douleurs humaines se sont donné rendez-vous. Là se trouvent les plus antiques cachots de France. Dès que la cité se forme, le cachot s'ouvre. Lutèce n'avait pas de rempart, elle avait sa prison. C'était une cave obscure, peut-être la chambre même où j'ai vécu. C'était ce lieu consacré aux angoisses et nommé depuis la conciergerie. Hélas, il a un enseignement bien douloureux. Le berceau de toute société, le nucléus qui renferme l'avenir d'une population, le premier germe et le pivot d'une grande ville, c'est une prison. D'abord, sous le donjon de la citadelle romaine, je voyais un caveau où les coupables de la cité municipale étaient jetés sans forme de procès par les centurions romains. Puis cette prison, s'agrandissant, devenait la salle souterraine de la tour où résidaient les chefs des Francs. Et à mesure que le palais acquérait de la splendeur, le cachot se creusait. Sous Robert II, un édifice d'une beauté insigne, dit élégante, c'est-à-dire une grosse tour carrée et flanquée de bastions, s'élevait au-dessus des prisons de la cité. Forteresse, résistance royale et prison, c'était toute la société féodale. Force physique, primauté hiérarchique et pouvoir militaire. Voilà les enseignements que me donnaient ces tristes caveaux et que je découvrais à travers l'atmosphère brumeuse dont l'abbé Leboeuf, Monsieur Sauval et la plupart des archéologues revêtent leur style diffus. Les chefs de la première race, si follement renommés rois par nos historiens, chefs de tribus sauvages et armées, habitants redoutables de cette forteresse, défilaient devant moi. Je voyais leurs cours bizarres, composés d'évêques gaulois et de leudes, de guerriers liés à leur fortune et de romains tombés en esclavage. Puis, descendant le cours des âges, j'arrivais à Saint-Louis, qui remit le palais à neuf, y éleva de longues colonnades gothiques et n'oublia pas les cuisines. À Philippe le Bel, qui suivit l'exemple de son prédécesseur et agrandit encore ce domaine royal. Ces souverains féodaux n'avaient-ils pas raison de choisir pour siège de leur souveraineté le cœur même de la ville, le vieux Paris dans son point central? Et le palais d'un roi de France peut-il occuper une situation plus convenable? Imaginez à la place de ces maisons irrégulières et des rues tortueuses de la cité un jardin ombreux, conduisant à une demeure splendide. La Seine baignant de tous côtés la racine des arbres et le marbre blanc des vastes escaliers. C'est là, dans la Lutèce de Jules César, qu'un roi de France devait avoir son trône. Mais le hasard qui fait son jouet des couronnes et le caprice des monarques qui a détruit plus d'une dynastie en ont décidé autrement. Les maîtres de ce beau pays ont préféré à l'habitation de leur capitale celle de Saint-Cloud, de Versailles, de Marly, du Louvre, longtemps située hors Paris. Ils n'ont laissé dans la vieille cité que les grands ressorts de toute société humaine, l'église, la tribunale et le cachot. Ces idées se développaient, ou plutôt apparaissaient tumultuairement dans ma jeune pensée, pendant les longues nuits et les tristes jours qui se suivaient et se ressemblaient tous. La lecture et l'étude dans une prison, mais c'est une volupté sans égale. Je reconstruisais pour mon usage une conciergerie de toutes les époques. Et étendu sur le lit malpropre que l'on m'avait accordé, les coudes appuyés sur la table noire chancelante qui soutenait mes volumes, je dévorais les lourdes pages de l'abbé Leboeuf. Puis Pamela, ce triste roman où la morale devient obscène à force de pruderie, œuvre manquée d'un homme de génie. Puis Arioste, où une main aimée avait trouvé le moyen ingénieux de correspondre avec moi en soulignant de page en page tous les mots qui, ajoutés l'un à l'autre, dans leur succession naturelle et sans exception des mots non soulignés, devaient former des phrases et avoir leur sens connu de moi seul. Mes yeux s'accoutumèrent en 3 jours à la faible et avare lueur que le soupirail me dispensait. Les savantes dissertations de Sauval m'apprenaient que le lieu même d'où je ne pouvais sortir avait été le préau de plaisance des rois et des reines, que 2 fois l'incendie avait mis en péril les jours des prisonniers et des gardiens, que l'infiltration des eaux de la Seine menaçait de ruiner les fondements de ces édifices de tous les temps, groupés et réunis dans un si bizarre assemblage, que le tocsin de la Grande Tour avait sonné la Saint-Barthélemy. Tous ces faits relatifs à quelques toits carrés et qui rappelaient des époques diverses frappaient vivement mon esprit. Je voyais notre histoire entière concentrée et résumée, pour ainsi dire, dans l'histoire d'une prison. Si le battant de la lugubre cloche sonnait, sa vibration qui pénétrait dans le cachot me disait « Mais je suis contemporain de Charles IX, j'ai appelé au meurtre les fanatiques, j'ai sonné les dernières heures de Ravaillac, de Damiens, de Montgomery, j'ai présidé aux plaisirs de les plus fous comme aux exécutions des plus lugubres. Quand on jouait la comédie autour de la grande table de marbre, c'était moi qui donnais le signal de ces farces auxquelles les rois assistaient. Et quand Louis XI et Richelieu envoyaient leurs victimes à la mort, c'était moi encore qui prévenais le bourreau, avertissais le peuple et faisais retentir le glas funèbre. Philippe de Comines, le plus sage et le dernier des chroniqueurs. Montgomery, grand nom chevaleresque. Ravaillac, Damien, Marie-Antoinette, l'abbé Doyère, née, victime si différente, que d'images sanglantes se pressent sur ses murailles. Fantômes qui passaient devant moi sur les gonds de fer et les barreaux de bronze de la grande porte massive, tandis que les voleurs, lâchés dans le préau, criaient, hurlaient et mêlaient leurs malédictions aux jurons sévères et aux injures officielles des gardiens. Ces cris qui venaient troubler mes rêves représentaient le vice ignoble à côté de la calamité historique. Peut-être un parricide a-t-il reposé dans la chambre où naissait s'est endormi, et des rues l'empoisonneur a été prisonnier dans la même geôle que Comines et Marie-Antoinette. Tel était le spectacle que se donnait à elle-même la pensée du captif. Mais n'avais-je pas aussi mon histoire sérieuse et secrète? Les émotions du jeune homme, ces émotions sombres, inattendues, inouïes, bien plus puissantes et plus pénétrantes que l'histoire et le passé. La première fois que toutes les grilles tombèrent, bruirent, frissonnèrent, prolongèrent leur écho frémissant sous ces longues voûtes, un froid secret me saisit, mon isolement me regarda en face. Je fus comme un mort qui se réveillerait tout à coup pour voir son tombeau se fermer. Le lendemain, on m'apporta une jatte de lait. Je ne pus retenir mes larmes. Il avait si loin de ce repas solitaire au déjeuner de la famille. Quelquefois, j'entendais une lourde voiture s'arrêter, les gonds retentir, les portes rouler, les barreaux tomber. Un grand mouvement se faisait dans la prison, puis tout redevenait au repos et au silence. C'était de nouveaux détenus que l'on amenait. Mon cachot était situé au-dessous d'une cour sur laquelle donnaient les fenêtres, ou plutôt les meurtrières, destinées à donner un peu de jour et d'air à la souricière. La souricière est, je crois, une prison provisoire où l'on entasse pêle-mêle les criminels en attendant une répartition plus exacte dans leurs logis respectifs. La souricière des femmes était assez rapprochée de ma cage pour qu'une partie des paroles qui leur échappaient arrivât jusqu'à moi. C'étaient des chants d'amour prononcés par des voix rauques. C'étaient des blasphèmes épouvantables répétés par des voix douces et fraîches. Des histoires obscènes racontées par des jeunes filles. Des narrations de vols et de meurtres faites en termes d'argot. Des romances nouvelles, des barcaroles et des vaudevilles chantées en chœur par ces femmes dépravées, mêlées de parodies, de folies, d'imprécations et d'éclats de rire. Ce qu'il y avait de triste dans cette scène, c'était son ardente gaieté. Toute tristesse, tout remords, toute pensée de morale et d'avenir manquaient à ces âmes qui avaient traîné dans la boue de la société et étaient elles-mêmes devenues fanges. Qu'on me pardonne ces détails, ils ne seront frivoles qu'aux yeux frivoles. Ce comble de la dépravation humaine me frappa fortement. Je n'avais été initié à aucun vice, et le crime ne s'était montré à moi que dans l'histoire, sous le nuage d'une profonde perspective. Une enfance tout absorbée par le roman de la pensée et l'activité de l'esprit ne m'avait point préparé à de telles révélations. Quand j'entendis une de ces femmes chanter la mélodie populaire de Quatrefo, Portrait charmant, etc., mon cœur se serra. Le contraste était trop fort, la dissonance trop pénible. Il m'est impossible d'entendre chanter cet air. Un jour, il se fit dans la prison plus de mouvement qu'à l'ordinaire. Les cloches sonnèrent plus longtemps. Des pas réguliers se firent entendre. Un frémissement de baïonnette m'étonna. La chambre voisine de la mienne s'ouvrit et se referma plusieurs fois. J'entendis pleurer et hurler dans cette chambre. Jacques, en me faisant sa visite, était revêtu de son costume d'uniforme. Les sanglots de la chambre voisine augmentaient d'intensité. Les femmes de la souricière chantaient toujours. J'appris du gardien qu'un condamné à mort occupait le cachot contigu au mien, que le jour du supplice était venu, que l'heure allait sonner et que ses sanglots, c'était l'informe et lugubre confession du malheureux, que le prêtre était là, que le condamné à genoux, ivre de désespoir et de vin, recevait ainsi l'absolution et qu'entre sa vie et sa mort il n'y avait pas 10 minutes. En effet, toutes les cloches se mirent en mouvement. Un bruit de roues ébranla le sol et l'édifice. Des murmures de voix lointaines accompagnèrent le cortège. Et la paix de la prison succéda à ce tumulte. Le cachot triompha, comme on le pense bien, d'une organisation de 16 ans. Et ces terribles scènes firent sur moi une impression ineffaçable. La privation d'air et d'exercice, le chagrin de ne pas revoir ce que j'aimais, l'atmosphère humide où je vivais me rendirent malade. Un mois s'était passé. Le médecin de la prison demanda pour moi la promenade du préau. Je fus conduit par Jacques dans une cour oblongue, creusée à 10 ou 12 pieds au-dessus du sol, des rues environnantes, encaissée dans de hauts édifices, toutes bordées de fer et toutes cuirassées de pierres de taille. Des pieds nus et sales couraient sur ce sable fin. Des voix rauques et dures demandaient qui je pouvais être. Des hommes aux bras velus m'entouraient. D'autres en chemise, n'ayant pour vêtements que de gros pantalons de toile grisâtre, étaient étendus par terre et jouaient. Quelques-uns travaillaient à des petits ouvrages en paille, dont la délicatesse est merveilleuse. Je reconnus là le vice tel que je l'avais vu dans la salle Saint-Martin, mais plus hideux encore. Dans la salle de police, il avait conservé une cravate, un habit, un langage à demi social, quelques-unes des habitudes de la civilisation. Ici, il se dessinait dans toute sa beauté, dans toute son énergie. Son seul dialecte était l'argot. Un mépris terrible de tout et de soi-même respirait sur ses visages. Une cupidité ardente scintillait dans l'œil des joueurs. À côté de la société parée et bien réglée, en voici une composée de sauvages qui ont emprunté à la civilisation toute sa ruse, toutes ses ressources pour les employer contre la civilisation même. J'étais plus effrayé de ces figures, de leurs questions, de leurs aspects, de leurs gestes, de leurs paroles inconnues, que je n'aurais été de l'échafaud. On ne me conduisit dans ce préau que deux fois. Ma troisième promenade eut lieu dans un second préau, beaucoup plus petit, de forme oblongue, et qui ressemblait pas mal au fond d'un puits qui serait environné de murailles hautes. Dans les caveaux dont les soupiraux aboutissaient à cette petite cour, se trouvaient plusieurs prévenus de délits politiques, entre autres un lieutenant de cavalerie, toujours de bonne humeur, étourdi, léger, d'une santé à l'épreuve, armé de railleries innocentes contre ses persécuteurs, et qui, enfermé derrière ses barreaux de fer, me faisait mille contes plaisants. Quand on vit que ma santé se rétablissait, on me rejeta dans les ténèbres. J'avais respiré l'air 3 fois en 8 jours. C'était assez. Et ma solitude se prolongea 2 mois. C'est ainsi que je connus la conciergerie. Grande leçon pour la vie d'un homme. Et si cet homme est innocent et plein de jeunes espérances, leçon qui porte avec elle une amère et ineffaçable tristesse. Les infortunés, dans la conjuration desquels on prétendit me confondre, furent condamnés à l'exil et à l'échafaud. Pour moi, comme un matin, vaincu dans mon stoïcisme puéril, je pleurais étendu sur mon lit, entendant les cloches voisines de Notre-Dame et contemplant avec regret la ligne oblique et lumineuse d'un long rayon de soleil qui pénétrait dans mon cachot. Des pas lourds et plus rapides qu'à l'ordinaire frappèrent mon oreille. Tout est régulier dans une seule prison. Un geôlier marche comme le balancier d'un pendule, sans se presser jamais. Jacques fit tourner assez vivement la grosse clé dans la serrure et me dit « Vous n'avez qu'à sortir, il y a un fiacre en bas. » Je ne savais en vérité que faire de ma liberté tant cette nouvelle m'étourdissait. Et la plus légère exagération n'en prendra pas ce récit fidèle. Si j'avoue que je ne puis rendre nul compte exact de mes sensations et de mes idées pendant ce jour. Jacques fit mon petit paquet. Je me laissai conduire. Je trouvai ma mère dans son lit, fort malade. Oh, je me souviens bien de ses baisers et de ses larmes, mais plus vaguement de cette pénétrante et vitale fraîcheur du mois de mai, du jardin parfumé où j'embrassai mon père, de cette profonde émotion qui s'était emparée du vieillard, de ces pleurs qui me couvrirent, et de l'étrange ivresse qui, après 2 mois d'obscurité et d'isolement, faisait frissonner tout mon corps et semblait prête à détruire en moi la vie même par le sentiment trop puissant de la vie et du bonheur. Je me rappelle aussi les secondes paroles de mon père. Vous n'avez plus rien à faire en France ? On aurait toujours l'œil sur vous. Il faut partir pour l'Angleterre. En effet, je partis. et ces deux mois décidèrent de tout mon sort. Les circonstances diverses qui conduisirent à mon élargissement n'auraient d'intérêt que pour moi. Sans fatiguer le lecteur de ces détails, qu'il me soit permis de dire que M. de Chateaubriand s'y intéressa. L'intercession d'un ange et la voix de l'homme de génie se viguèrent pour me délivrer. Alors, en possession d'un pouvoir dont il n'aurait usé que pour sauver ses maîtres, et dont ses maîtres, préludant au suicide de leur dynastie, l'ont follement dépouillé, M. de Chateaubriand, dans une carrière si remplie, n'a sans doute pas conservé le souvenir de cette bonne action obscure que ma reconnaissance se plaît à lui rappeler. Voyages, travaux et souffrances, rien n'effaça le souvenir de la conciergerie. En 1831, je voulus la revoir. Il me semblait qu'autrefois j'avais, par je ne sais quelle magie, vécu dans le sein même de la féodalité. Tant ces tours, ces corridors, cette lampe, ces souterrains le représentaient vivement à mon esprit. Mais la civilisation, dans son cours éternel, avait enfin atteint et dompté ces vestiges de barbarie. Donnez un autre nom à cette maison de justice. La conciergerie n'existe plus. Maintenant, on entrepointe à la conciergerie par la cour du palais. Plus de guichettes obscures, plus de lampes sépulcrales. La conciergerie a son issue et son entrée seigneuriale sur le quai de l'horloge. La petite porte basse est condamnée. Une vaste grille sert de clôture à la prison. Pour y pénétrer, vous traversez les cuisines de Saint-Louis, longtemps salle gothique, sombre mais majestueuse, et dont la hauteur est singulièrement diminuée par l'exhaussement du sol. Tout le caractère du lieu a changé. Les escaliers sont convenables, l'air circule, la pistole a baissé de prix, vous prendriez les gardiens pour des infirmiers d'hôpital. J'ai vu 5 ou 6 femmes se promener fort paisiblement dans le préau qui leur est consacré. Le pain distribué aux détenus est d'assez bon pain de soldat. Je ne sais si l'on peut y remarquer encore beaucoup de traces de l'antique inhumanité des prisons. Il y en a une que je signale et qui subsiste. Les prisonniers, au lieu de coucher dans des draps, couchent dans des sacs. C'est une triste et mauvaise coutume que d'encaquer un malheureux dans une toile cousue de 3 côtés. L'infirmerie n'est pas assez aérée, mais la propreté de toute la prison est parfaite. Il est facile d'apprécier, par la distance qui sépare la conciergerie du 1815 de la conciergerie du 1831, les progrès que le bien-être et l'utilité matérielle des hommes ont fait pendant ce laps de temps. Mais l'aspect moral de la prison n'a point changé. Vous reconnaissez dans le préau toutes les figures de 1815. Ce grand problème, l'épurement de cette immoralité fomentée par une capitale, immense fabrique de vices, est si loin d'être résolu. De mon temps, c'était des bonapartistes, des libéraux que l'on jetait pêle-mêle à la conciergerie. Une seule opinion était frappée. La fureur politique se révélait ainsi par d'éclatantes injustices, dont je fus l'une des victimes obscures. Aujourd'hui, la confusion de notre société, le chaos de notre état moral, se trahissent au sein de la conciergerie par des spectacles plus bizarres encore. C'est là que, pendant nos derniers troubles, M. Valérius, le vicaire de Saint-Médard, et M. Cavaignac pouvaient se donner la main et dîner ensemble. Étrange symbole de la société d'aujourd'hui et des éléments disparates qui s'y meuvent confusément. Voulez-vous avoir le résumé d'une société, d'une époque, d'un état social? Descendez dans une prison.